Je voulais remercier Laurence de m'avoir fait venir aujourd'hui. Je pense que vous avez compris immédiatement par l'entrée en matière de Laurence à quel point un catalogue peut être aussi un enjeu quand il y a un propos à une exposition qui est un propos qui dépasse exclusivement, je dirais, on voit que l'enjeu dépasse exclusivement le champ de l'histoire de l'art puisque c'est un enjeu qui est aussi bien historique, aussi politique à l'heure actuelle. Donc quand vous vous retrouvez confronté à ce type de catalogue, si vous travaillez dans les éditions des musées, la première chose qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que de plus en plus, on va vous demander, quand vous travaillez dans ce métier-là, de faire, je dirais, résoudre la triple équation impossible. Il faut faire des ouvrages qui coûtent peu d'argent, mais qui sont à petit tirage et qui doivent être rentables, donc qui se confrontent très souvent à l'édition, je dirais, de... qui est en grand nombre d'exemplaires pour des, je peux en parler de maison d'édition comme Ta Chaîne, mais qui est quand même un ennemi total pour les livres d'art. Tout en sachant que le livre d'art est de moins en moins vendu en librairie puisque les rayons histoire de l'art disparaissent peu à peu dans l'ensemble des librairies françaises. Et vous devez en même temps faire un ouvrage pour des besoins pédagogiques qui ne sont pas forcément toujours bien compris. On vous demandera très souvent de faire un ouvrage en direction de publics qui n'ont pas l'habitude d'acheter des livres. Donc, donner ces trois impossibilités, il est toujours très important. Et je pense que je suis aussi commissaire d'exposition, mais c'est quelque chose, je pense qu'il faut que vous gardiez tous à l'esprit. Un catalogue, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est ce qui sera ce qui va vous permettre déjà, quand vous travaillez sur l'exposition elle-même, de construire aussi le discours de l'exposition. Et c'est ce qui permet aussi d'être sa mémoire ensuite. Ce que disait Laurent, c'est vrai, c'est-à-dire que quand l'exposition se termine, il y a hélas aucune photographie ne peut vraiment rendre compte de l'expérience de ce que vous avez vécu à l'intérieur de l'exposition. Mais par contre, le catalogue reste sa trace. Et le catalogue a autre chose, et je pense qu'il est aussi important de continuer à insister sur ce dernier point. Le catalogue est pour moi quelque chose qui est un des moments où la culture continue à se régénérer et recommence. Il faut absolument que les catalogues soient destinés à un large public, ça c'est un fait, mais que le catalogue ne renonce pas non plus à ses enjeux scientifiques. Alors, après cette petite entrée en matière assez rapide, quand Laurence m'a présenté le projet, la première chose que j'ai vue, c'était un peu le volume du catalogue. Ce qu'il a fallu pardonner d'ailleurs, puisque ça a été un livre qui a fait 480 pages, qui faisait plus de 800 000 signes, donc c'est à peu près la taille d'un dictionnaire classique, qui avait à peu près plus de 110 auteurs, je ne sais plus, 120, je crois, 150 au début. 140. Donc on en a perdu 10 encore d'autres. 230 textes. On avait quand même en même temps plus de 400 images. Donc quand on vous donne toutes ces données-là, la première chose que vous vous dites, c'est « Mon Dieu, il va falloir que j'établisse un budget et que j'aille le défendre auprès de nos tutelles pour pouvoir faire ce catalogue ». C'est un catalogue qui est, en effet, qui était très cher à fabriquer, très compliqué à faire passer auprès des tutelles, parce que ce sont des investissements qui sont, en fait, un catalogue qui correspond à peu près à un budget annuel d'édition, mais qui, dont le projet était assez facilement, je dirais, présentable. D'abord parce que Laurence a une grande habitude des métiers de l'édition. C'est aussi l'intérêt de travailler avec deux personnes différentes. Quelqu'un qui a Jacqueline Munk, qui était le commissaire de l'exposition dès le départ au Musée d'Art Moderne, qui a une grande habitude du catalogue de l'exposition, peut-être plus classique. Et Laurence, venant du milieu de l'histoire de l'art, qui a une habitude de l'édition différente et du livre. Donc en fait, on est arrivé immédiatement pour défendre ce livre-là avec un concept qui était déjà bien établi. La première idée, en même temps, était de montrer à nos tutelles que, vu la complexité du propos de l'exposition, un petit catalogue schématique risquerait d'avoir des conséquences négatives aussi sur l'image de l'exposition, voire même l'image des tutelles. Donc, après ce premier travail, une fois que vous commencez à travailler sur ce type de projet, il faut rentrer dans une logique, je dirais, moi je vais parler de choses qui ne sont pas forcément de l'ordre de la passion, mais qui sont hélas de l'ordre du pratique. Vous êtes obligé de monter une équipe. Vous faites un dictionnaire. Les musées ne sont pas très, à l'heure actuelle, équipés pour ce type de travail. Ça veut dire que vous allez avoir, pour vous donner un peu l'idée aussi de la taille un peu importante aussi de l'équipe qui se met en place à ce moment-là, vous avez deux commissaires d'exposition, deux assistants d'exposition, vous avez, j'ai quelqu'un qui est venu en renfort, donc on était deux personnes sur les éditions au Musée d'Art Moderne lui-même. Il y avait deux autres personnes chez notre éditeur qui est Paris Musée. Il y avait deux iconographes, deux fabricants, un secrétaire de rédaction et bien sûr un graphiste. Bon, ça c'est pour vous donner... Le problème, c'est que quand vous multipliez le nombre de gens, vous multipliez aussi les délais. Donc ensuite, il faut mettre en place des protocoles de travail qui sont relativement sévères. Et là, en fait, on a vraiment travaillé, je dirais, en 13, c'est très bien passé. C'est-à-dire que ce qui faisait très peur, qui était la question du délai, n'est finalement pas été forcément le problème qui s'est posé. Ça a plutôt été des problèmes d'argent à la fin que des problèmes de délai. Mais le travail s'est établi, en fait, selon des protocoles qui sont importants aussi à mettre en place dans ce type d'ouvrage. C'est-à-dire, surtout, ne jamais se laisser déborder de telle manière à ce que le commissaire puisse continuer à travailler avec les auteurs de telle manière à ce qu'on ait un contenu du catalogue et un contenu aussi iconographique qui reste en rapport avec l'exposition. Donc, quand les textes arrivaient, Laurence a fait énormément de travail puisque c'est elle qui a contacté les auteurs. Chaque auteur a été briefé sur ce qu'elle attendait d'eux, ce qui n'était pas si facile que ça puisqu'en fait nous étions sur des petites notices, ce que j'ai appelé au départ des notices qui faisaient chaque fois réagir Laurence, qui n'étaient pas vraiment des notices puisqu'en fait c'était des petits essais. Mais la difficulté d'expliquer à un auteur qui est déjà un auteur qui a beaucoup écrit, le fait qu'il faille développer une idée en quelque chose qui ne dépasse pas 5000 signes et quelque chose qui n'est pas évident non plus. Donc il a fallu retravailler les textes aussi pour les faire rentrer souvent dans un cadre. Et donc, on a établi cette procédure de telle manière à ce que Laurence et Jacqueline pouvaient réintervenir autour des textes. Ensuite, les textes passaient, je dirais, à un niveau plus neutre qui était le mien. Et je travaillais à l'époque avec une jeune femme qui travaille maintenant chez Flammarion, qui était Colette Taylor-Jones, où nous lisions les textes sur deux... On s'était partagé un peu les rôles. D'une part, sur ce qui était la lisibilité du texte. N'oubliez jamais aussi, j'arrête pas de faire des rappels, mais quand vous faites une exposition, vous êtes dans votre sujet. Le problème, c'est que la personne qui lit le texte n'est pas dans votre sujet. Donc le regard extérieur est quelque chose qui est extrêmement important à ce moment-là. Et c'est vrai que nous sommes rentrés dans le sujet par l'intermédiaire de ces arrivées de texte. Donc où nous avions un premier critère, je dirais, de lisibilité qui arrivait au niveau du musée. Et ensuite, les textes étaient passés à notre éditeur qui travaillait sur la mise en forme, l'homogénéité des présentations. Nombreux auteurs ayant voulu mettre des notes dans des petits textes, des petits essais, ce qui rend les choses toujours un peu complexes aussi. Ensuite, les illustrations, c'est aussi quelque chose de très important et c'est quelque chose où on a eu finalement ce qui était peut-être le point qu'on avait un peu sous-estimé dans l'organisation. C'est-à-dire que dans l'habitude de faire un catalogue d'exposition, on sait tous que les illustrations arrivent toujours en retard, qu'elles sont liées au prêt, que c'est quelque chose de compliqué à établir, mais qui est quelque chose, je dirais, de l'ordre de la routine, de la difficulté de monter un catalogue. Là, le premier problème qu'on a eu, c'est qu'évidemment, vu le nombre d'œuvres présentées, on ne pouvait pas avoir le même nombre d'œuvres reproduites à l'intérieur du catalogue. Donc, il fallait faire des choix. On a eu un nombre limité d'images, même si on en a eu plus de 400 à la fin. Et en fait, dans les choix, on a été amené à un moment donné à peut-être, ça c'est peut-être le regret qu'on aura toutes les deux sur ce catalogue, c'est qu'on a été amené à limiter les illustrations plus documentaires pour privilégier les œuvres. C'est le genre de choses aussi qui sont des choix éditoriaux qu'on fait au départ, qui sont liés aussi à des impératifs. On travaille tous dans les musées, donc pour nous, en effet, l'œuvre d'art reste l'élément essentiel. Mais parfois aussi, le document ne doit pas être mis forcément à un autre plan, surtout pour ce type d'exposition. Après ça, vu le foisonnement entier d'informations que nous avions, il y avait quand même une structure du livre bien définie, puisqu'on avait un sommaire qui a été défini. Alors, c'est là où je dis que c'est des catalogues qui sont assez merveilleux, parce que j'en ai d'autres, hélas, qui ne se sont pas passés comme ça, mais où le sommaire est défini dès le début. Dès le départ, il était clair qu'on avait des essais de présentation, qu'ensuite l'exposition serait présentée, enfin qu'il y aurait une forme de parcours de l'exposition à travers les grands moments de l'exposition présentés par de courts textes d'introduction qui étaient des textes d'introduction qui se voulaient à la fois pédagogiques mais aussi précis sur les œuvres présentées, qui permettaient en fait de ventiler les œuvres d'art de telle manière à avoir des œuvres d'art présentées en grand format pour avoir une certaine générosité aussi au niveau des expositions. Et une deuxième partie qui était la partie, je dirais, qui était vraiment la partie de la recherche d'ailleurs, qui était celle de l'abécédaire. Donc finalement, on avait deux livres en un. Ensuite, on a ce foisonnement d'informations et ensuite, le problème qui se pose immédiatement, c'est trouver quelqu'un qui puisse mettre ce type de foisonnement d'informations en page de telle manière à ce que graphiquement on retrouve une structure du livre. Là, on avait encore la chance à l'époque de pouvoir choisir notre graphiste directement, donc on a contacté Pierre Perronnet, avec qui j'avais déjà travaillé auparavant sur un autre livre qui était le livre de Hélène Studievic, qui était déjà deux livres en un, puisque à l'époque c'était une monographie avec un passage qui était sur en fait les amis d'Hélène Studievic, qui était présenté aussi dans l'exposition comme une des expositions dossiers dans chaque au fur et à mesure je dis Hélène Studievic qui est notre éditrice, alors que vous aurez tous compris que c'était Tourop. Tourop, oui, désolée. Et en fait, quand on parcourait le catalogue, on avait cette idée aussi. Donc là, j'ai repris ce graphiste puisqu'il avait cet intérêt qui était justement cette possibilité de structurer visuellement à l'intérieur du livre, ce qu'on pouvait avoir en structuration visuelle dans l'architecture de l'exposition. Et le livre se construit aussi comme une exposition, en fait. Si vous avez une idée à faire passer visuellement et que vous faites votre brief avec l'architecte sur l'exposition, c'est un brief relativement semblable que vous faites au graphiste. Donc, on a travaillé pendant 9 mois... en très étroite collaboration sur ce catalogue, 6 mois avec le graphiste. Et c'est vrai que là, vous avez aussi ce travail qui se fait. Et je pense que tout cet intermédiaire de travail dont je vous parle est important parce que chaque fois que vous travaillez aussi avec un graphiste, vous vous rendrez compte que la question du graphiste peut être aussi la question du public. Mais que la question du graphiste, c'est aussi celle de son propre métier. Et vous avez vous-même votre propre métier. Donc les impératifs, en fait, de lisibilité du catalogue, les impératifs de rendre visible un propos d'exposition, est quelque chose qui passe, qui fait partie de ce triangle à trois personnes et de cette complexité pour monter, justement, à quelque chose qui, visuellement, soit encore dans l'esprit de l'exposition. Donc, je ne sais pas si tu veux réagir sur le travail avec le graphiste, puisque c'est quand même...
Oui, bah, ça c'est vraiment très important, en effet, c'est très important. Tu nous as quand même préparé le travail en nous proposant, en fait, comprenant le sujet, voyant aussi les problèmes de personnalité, parce que c'est vrai qu'une exposition, c'est aussi, on parlait de personnages, mais c'est aussi des personnalités, donc c'est des problèmes humains, c'est des problèmes de diplomatie. Un graphiste, ça peut avoir très mauvais caractère. En l'occurrence, il a mauvais caractère. Hein ? Un commissaire aussi, oui, absolument. Et donc, les deux, donc, ça fait... Bon, en l'occurrence, il a mauvais caractère. Mais c'est un extraordinaire graphiste. C'est un extraordinaire graphiste. Du coup, il nous a fait quand même un très beau catalogue qui est vraiment... Enfin, je crois qui est vraiment... Et voilà, donc tu nous as préparé le terrain. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a eu des séances un peu, un peu tendues parce que les graphistes sont comme nous. Ils ont des marottes et c'est pas les mêmes. C'est-à-dire, par exemple, en ce moment, lui, il est adepte de la ligne claire et il rend pas les choses illisibles. Les graphistes, en ce moment, ils aiment bien prouver leur pouvoir, c'est-à-dire rendre les choses illisibles ou les mettre en tout petit ou à l'envers. Je pense que toutes les personnes qui ont des expériences, mais en même temps, ils sont formidables parce que ils sont essentiels. Un bon catalogue, c'est un bon graphiste. Je crois qu'il faut toujours aller vers des graphistes audacieux. Il faut risquer le coup. Il ne faut pas prendre des gens plan-plan. Il faut prendre des gens audacieux, à mauvais caractère, mais avec qui, quand même, sur le fond, on peut établir des relations, parce qu'à ce moment-là, on aura quand même quelque chose de mieux qu'un truc moyen, vous voyez, si c'est pour faire un catalogue vraiment comme ça. Qui est... Et là, par exemple, il avait une police de caractère, je me souviens. Tu te rappelles sa police de caractère incroyable, hollandaise, là, que personne n'a. Absolument magnifique, vraiment magnifique.
Avec tous les problèmes que ça pose, parce que comme personne n'a, les imprimeurs non plus, le photographeur non plus, personne sans italique et sans rien. Oui, bon, et elle était magnifique, mais voilà. C'est vrai qu'elle était un peu complexe à gérer.
Puis après, tu te rappelles, il y avait la question des papiers, le papier
alors,
craft.
Ça, c'est vrai qu'on avait choisi, pour justement, pour rendre le livre visible. Ce que disait Laurence sur le choix du graphiste, c'est que vous faites pas une... Si vous travaillez dans l'art, c'est pas pour travailler ni sur l'ordinaire ni sur la banalité. Choisir un architecte pour une exposition, vous allez choisir quelqu'un qui n'est pas non plus dans la banalité. C'est quelqu'un qui doit pouvoir rendre votre propos de la manière la plus efficace possible. Un graphiste, c'est pareil. C'est-à-dire choisir le graphiste lambda qui arrivera en vous faisant une maquette type, sans essayer de s'appréhender le concept de l'exposition, sans sens, sans essayer de rentrer à l'intérieur du sujet. Vous êtes sûr d'avoir un livre qui sera un livre, je dirais, il peut être très correctement mis en page, très, très basique, sauf que ce livre-là, il aura sa vie après. Alors, autant vous dire quand même que la vie d'un livre d'art est d'autant plus complexe dans les métiers de l'exposition qu'on nous demande en général d'avoir un livre qui se vend 4 mois et qui disparaît ensuite des librairies. Donc, s'il veut survivre ce livre-là, c'est qu'il faut qu'il devienne plus qu'un catalogue d'exposition, il faut qu'il devienne une référence. Et une référence est à la fois dans le contenu et dans sa forme elle-même. C'est quelque chose sur lequel je me bats beaucoup en ce moment. J'en ai arrivé à citer le livre de Barre lundi lors d'une réunion très houleuse sur le devenir des éditions du musée. Sur le graphiste en lui-même, donc le choix de Pierre, ce qu'il nous a présenté, était assez intéressant. Comment rendre cette dualité du catalogue ? Ben, par quelque chose qui était assez simple, qui était une dualité de papier. Vous n'aviez pas le même papier au départ du catalogue qu'à la fin du catalogue. Comment rendre ces différentes sections ? Alors là, je crois que ça a été une des pires batailles de tout. Si vous saviez sur quoi on peut se battre sur un catalogue. Nous sommes beaucoup battus sur les intercalaires en craft qui séparaient les dernières sections, qui furent quasiment le point de rupture de l'exposition et du montage du catalogue. Puisqu'en fait, ce que nous proposait le graphiste, c'était un système très lisible, où chaque partie était bien distinguée les unes des autres. Et ce que Laurence voulait montrer dans ce catalogue, c'était que rien n'était aussi rigide et que toute section circulait l'une par rapport aux autres. Finalement, on a fini par opter pour un entre-deux qui est assez convaincant sur la forme elle-même. Donc, pour revenir au travail lui-même avec le graphiste, vous savez que quand vous travaillez vous-même avec vos propres idées directement avec le graphiste, vous aurez affaire aussi ensuite à des impératifs qui sont des impératifs techniques. C'est-à-dire que tous ces choix-là, c'est assez important en fait que vous ayez ce qu'on appelle dans l'édition, on est à peu près, disons que nous sommes entre le marteau et l'enclume, que vous ayez des gens qui font le lien entre les deux, qui vous permettent de vous expliquer que même s'il était magnifique d'avoir un grand dépliant à l'intérieur d'un livre, ce dépliant ne permettra pas au livre d'être fait parce qu'il sera trop cher ou le livre ne pourra pas être vendu ensuite parce qu'il sera détruit dès la première usage, qui vous explique que le choix de différents papiers est quelque chose de magnifique, mais que ça vous tient à 16 pages régulièrement, parce que si vous dépassez plus de 16 pages, vous ne pourrez pas avoir des cahiers différents. Enfin, tous ces problèmes techniques sont aussi intégrés à l'intérieur de la réflexion. C'est pour ça que monter, en fait, un livre comme celui-ci, je dirais que c'est une petite entreprise en elle-même. C'est un projet dans l'exposition, mais c'est un projet qui a sa propre vie organique et son propre devenir organique.